Commises d'office par leur genre, une émission créée dans le projet Penser la justice, réalisée et présentée par Alexia Perrenne et Laetitia Barreto.
Saviez-vous que la première femme à être diplômée de droit en Belgique n'a pas pu exercer le métier d'avocate ? En 1888, la cour d'appel refuse à Marie Poplin l'accès au barreau. Le procureur général Van Schor justifie ce refus dans le discours. Les exigences et sujétions de la maternité, l'éducation que la femme doit à ses enfants, la direction de son ménage et du foyer confié à ses soins, la place dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d'avocat, et ne lui donne ni les loisirs, ni la force, ni les aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du barreau. Être femme et avocate n'allait pas de pair à l'époque, aujourd'hui ça a changé, la justice se féminise.
On remarque, ces dernières années, plusieurs articles de presse qui parlent d'une féminisation de la justice en Belgique. Rien qu'en 2013, les femmes représentent 54% de la magistrature assise. Par magistrature assise, on parle donc de juges. Pour ce qui est de la profession d'avocat, en 2017, on recense 46% de femmes au barreau bruxellois. D'un point de vue quantitatif, les faits sont là. Mais nous nous sommes demandé comment ça se passait dans la pratique au quotidien pour les principales intéressées. Quel parcours suivent-elles? Comment elles conjuguent leur carrière et leur vie privée? Et à quels défis elles doivent faire face?
Nous avons donc récolté des témoignages pour en apprendre plus sur ces femmes justicières. Des auditoires au siège de juge en passant par le barreau, ces femmes nous expliquent comment elles appréhendent leur profession. Nous avons aussi rencontré des hommes pour qu'ils nous parlent de leur métier et de leurs consoeurs. Oh, cinnamon, where you gonna run to?
Cinnamon. On voit souvent à la télévision des femmes héroïnes, avocates ou juges. Plusieurs productions construisent leur scénario autour du monde judiciaire. Vous connaissez peut-être The Good Wife, ou vous vous rappelez encore d'Ally McBeal ou de Femmes de loi. Ce qu'on voit, c'est qu'au cinéma, la représentation du métier correspond souvent à une image de prestige et de pouvoir. En bref, les avocates et les juges luttent pour améliorer la société. On s'est donc demandé si, dans la vraie vie, les femmes commencent leur carrière par cette même conviction. Vous allez tout de suite entendre le témoignage de Manuela Cadelli, qui est juge à Namur et présidente de l'Association syndicale des magistrats.
J'ai vu un film quand j'avais 12 ans, un vieux film qui s'appelait « 12 hommes en colère ». Et ça m'a passionné le fait qu'un juré est convaincu de l'innocence d'un type que tout accable et convainc les 11 autres de l'acquitter. Donc ça m'a vraiment passionnée et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux être avocate. Et donc depuis que j'ai 12 ans, 10 ans, je veux faire ça. J'ai toujours voulu défendre. Et puis il y a une série de raisons familiales et analytiques qui sont liées, qui sont un peu freudiennes. Je veux défendre, je veux lutter contre les abus, je veux renverser les rapports de force. Donc je suppose que ma militance est aussi liée à cette affaire-là.
Camille Hansens et Morgane Mercier sont toutes deux étudiantes en master de droit à l'ULB. Elles nous expliquent leur choix de formation.
J'ai vu un film, donc Erin Brockovich. C'est sur l'histoire d'une femme qui n'avait absolument pas de formation juridique aux États-Unis dans les années 90 et qui, en fait, se met à travailler en tant que secrétaire juridique pour un cabinet d'avocats là-bas et découvre, de manière totalement fortuite, un scandale de pollution des eaux dans une ville perdue en plein milieu du désert. Et du coup, elle va se battre pendant 2 ans pour faire condamner la société qui polluait. Et donc, il y a eu 600 plaignants à peu près, des familles où tout le monde avait des cancers, des maladies de la peau, etc. Et à ce jour, c'est elle qui détient le record du plus gros dédommagement. Donc elle a réussi à faire gagner 300 millions de dollars aux familles suite au scandale. Et du coup, ouais, moi, c'était un peu ça qui m'intéressait. C'est défendre la veuve et l'orphelin. C'est quelque chose avec lequel on vient facilement en droit. Puis bon, on nous déconstruit un peu cette idée en nous disant « Oui, mais vous savez, défendre la veuve et l'orphelin, pas forcément ce qui se passera dans votre futur. » Après, moi, je trouve que c'est... Même si je suis plus aussi naïve que je pouvais l'être en arrivant, je trouve que c'est un idéal auquel je suis toujours encore attachée et vers lequel j'aimerais tendre, même si effectivement... je passerai pas ma vie à défendre des grandes affaires, etc.
Pour être avocat, il faut faire les 3 ans de stage au barreau. J'aimerais bien faire ça dans tous les cas. Après, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais ouais, très certainement être avocate et puis travailler à la Ligue des droits humains ou ce genre de choses. Plus faire du contentieux stratégique, en fait, pour faire évoluer. Prendre en fait une affaire pour avoir une jurisprudence qui va faire évoluer en fait une certaine matière en question.
Dans notre enquête, nous avons aussi rencontré quelques avocats. Antoine Delforge, Bruno Daillé et Laurent Arnaut répondent à cette même question. Pourquoi le droit ?
Parce que j'ai un papa qui était magistrat et que la chose publique m'intéresse très très fort. Puis on se dirige vers le droit comme le droit à faire la guerre de triage et nous dispatcher vers d'autres métiers. Mais finalement, le métier d'avocat était pour moi très clair et je suis tombé dedans et je suis resté dedans.
J'ai fait les études de droit en même temps que les études de philosophie. J'étais davantage versé vers la philosophie, mais mon père en particulier était très mordu par les études de droit et donc je lui ai fait cette concession alors que, a priori, je n'étais pas destiné à devenir juriste. Donc je l'ai fait un peu contraint et forcé et le hasard m'a amené vers cette profession dans laquelle je me suis taillé une côte à mon image.
En embrassant les études, j'ai d'abord choisi pour le droit. Et tout simplement en allant à une leçon lors des journées portes ouvertes. Et je me rappellerai toujours de ce cours de droit romain donné par Madame Jones, Huguette Jones, qui était donc la professeure de droit romain à l'époque, qui m'avait effectivement convaincu que la matière juridique, en tout cas, pouvait me plaire en termes de découverte. Et donc c'est suite à cela d'abord. Donc c'est vraiment une approche intellectuelle d'abord qui m'a séduite. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, pour diverses raisons, je dirais la profession d'avocat s'est un petit peu imposée, si j'ose dire. En d'autres termes, je dirais que ce n'est pas une vocation tardive, je ne dirais pas cela non plus, mais disons que ce n'était pas en tout cas l'objectif de départ, non. Oh, cinnamon, where you gonna run to?
Cinnamon, where you gonna run to? Comme vous avez pu l'entendre, les hommes et les femmes ne s'engagent pas pour les mêmes raisons dans cette carrière. Les femmes parlent d'une volonté d'aider leur prochain, c'est ce qui les a poussées à faire du droit. Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré Manon Willems, stagiaire au barreau de Namur, et Anne-Marie Boudard, avocate à Bruxelles, spécialisée en médiation. Nous avons voulu savoir si cette aspiration humaine influence leur choix de travail.
Quand on finit les études, on peut se retrouver confronté au fait de travailler dans un très gros cabinet ou dans un cabinet à taille plus humaine. Moi, personnellement, j'ai choisi le cabinet à taille plus humaine parce que je voulais traiter des dossiers à taille humaine aussi, avoir un contact vrai avec les gens.
Mais c'est un vrai travail d'équilibriste. C'est en fait qu'on a plusieurs vies. Donc, maintenant, mes enfants sont quand même un peu plus grands, donc voilà. Quand ils étaient petits, quand je les avais conduits à l'école, je me disais, ah, ça y est, il y a déjà mes deux vies qui sont passées, déjeuner, préparer les repas et conduire à l'école. Maintenant, c'est ma troisième vie qui commence, et puis ce soir, une quatrième, et puis c'est une cinquième. C'est vrai que c'est pas évident, parce que faire le barreau à mi-temps, c'est impossible, en fait. Donc, même si on dit oui, on va faire un temps partiel, etc., mais les personnes, surtout en matière familiale, les entretiens, c'est le soir, après leur travail, quoi. Donc, on doit avoir des tranches quand même très importantes de rendez-vous à partir de 4 heures jusqu'à parfois 20 heures, 20 heures 30, 21 heures. Il y en a qui aiment beaucoup le matin aussi ou l'heure du midi. Donc, ça demande une organisation pas évidente et c'est vraiment de l'équilibre. Il faut vraiment le vivre pour voir ce que c'est. Après, moi, évidemment, j'ai orienté toute mon activité vers les accords, vers la médiation, après le droit collaboratif. Donc, mais s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais quitté le barreau. Ça, c'est sûr. Oh, cinnamon, where you gonna run to?
Cinnamon, where you gonna run to? Savez-vous pourquoi l'on trouve plus d'avocats que d'avocates au sein du barreau bruxellois ? Eh bien, simplement parce qu'il existe une tendance générale des femmes à quitter le barreau lorsqu'elles décident de devenir maman. Ce n'est pas toujours évident de concilier carrière et famille, encore moins lorsqu'on possède son propre cabinet. C'est pour ça que certaines de ces avocates optent pour la magistrature et deviennent juges.
Le statut de magistrate permet aux femmes d'échapper au rythme du barreau et leur offre de nombreux avantages, comme l'explique Manuela Cadelli, juge au pénal des questions bancaires et financières au tribunal de Namur.
Par rapport à avocat, il n'y a pas photo, le confort est total quand on est magistrat. D'ailleurs, vous avez compris que c'est pour ça que je suis devenue magistrat. C'est parce que je sentais bien que j'allais sacrifier ma famille. Si je voulais devenir avocat comme je l'avais en tête, je devais sacrifier beaucoup de choses et je ne le souhaitais pas. il y a moins de travail, pour faire bref, il y a moins de travail comme juge que comme avocat. Hein, comme avocat, si vous avez des clients, c'est tout le temps qu'il y a des urgences aussi, que vous devez aller, si vous êtes namurois, vous devez aller à Bruxelles, à Mons, à Neuchâteau, à Liège, revenir en audience famille ici à Namur. L'audience famille se termine à 19h, ben, vos clients vous attendent au cabinet, donc c'est extrêmement épuisant, nerveusement aussi. Juge, je suis le tiers qui a le dernier mot, c'est moi qui vais dire ce qui va se passer en réalité. Et donc je peux le faire avec une distance émotionnelle que n'a pas l'avocat. L'avocat doit, et alors c'est ce qui est admirable, j'adore l'avocat qui défend, mais je n'ai pas, je crois, la solidité. Je suis très solide. Si je disais que je ne suis pas solide devant des gens qui me connaissent, ils me riraient au nez. Mais j'ai perçu en étant avocat que ça mobilisait beaucoup trop d'énergie, des énergies vitales, qui ne sont pas anecdotiques, qui ne sont pas en surface. Alors que comme juge, précisément, ce que j'aime, c'est découvrir le dossier, aller chercher tous les éléments qui vont nourrir ma décision et produire alors une décision, un récit aussi. Comme juge, je produis un récit que je vais chercher. Et la question de trouver un équilibre entre deux récits et puis en faire un qui soit le mien, ça m'excite considérablement intellectuellement, ça me plaît beaucoup. Et précisément, pouvoir être celle qui vient renverser un rapport de force plutôt que défendre une cause, ça me plaît beaucoup. Alors je regrette de ne pas être toujours du côté du défenseur, j'aurais aimé, mais voilà, ça ne s'est pas mis. Et j'y trouve mon compte, et intellectuellement et politiquement, dans le fait d'être juge.
Rappelons que 54% des juges sont des femmes, et que pourtant, on ne les retrouve pas dans toutes les cours. Adeline Cornet, criminologue, a publié une thèse en 2015 sur le vécu des femmes magistrates en Belgique. Elle y relève notamment la répartition spécifique des femmes juges dans les différents tribunaux.
Le visuel extérieur qu'on peut avoir de la magistrature, effectivement, il y a beaucoup de femmes dans la magistrature. Et techniquement, si on prend les chiffres, et je pense qu'ils ne cessent d'augmenter, on a dépassé les 50, voire les 55% de magistrates dans le cadre de la justice. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est une réalité, quand on parle des femmes dans la justice, c'est une vraie réalité, on ne va pas nier ça. Cependant, quand on commence à regarder un petit peu plus les chiffres par juridiction ou par niveau de juridiction, on se rend compte que cette féminisation n'est pas quelque chose d'homogène. C'est pas comme si on avait 50% de femmes dans l'ensemble des fonctions, dans l'ensemble des juridictions. Donc, si on regarde les chiffres et si on croise un ensemble de données, on se rend compte quand même qu'il y a des endroits où les femmes, même si elles ont accès depuis 1948 à la fonction, et même si on a eu vraiment une grosse poussée numérique dans les années 80 au sein de la magistrature, il y a encore des bastions où elles sont un peu moins présentes. Et typiquement, c'est la Cour de cassation, le parquet près la Cour de cassation, le parquet fédéral, et un peu moins fort, mais quand même, les parquets généraux et tous les postes de chef de corps, en réalité, où elles se retrouvent moins. Et il y a même une exception notable, qui est la Cour de cassation, où on remarque que à l'inverse de ce qui se passe dans l'ensemble de la magistrature et des autres juridictions, les augmentations du cadre, donc c'est-à-dire l'augmentation numérique du nombre de magistrats à la Cour de cassation, n'est pas comblée par les femmes, mais est comblée par des hommes. Ça veut dire que la proportion de femmes diminue. Et ça va à l'inverse de la tendance qu'on voit dans toutes les autres juridictions. Et donc ça montre effectivement qu'il y a des endroits où ça n'est pas qu'une question de temps ou une question de compétence. Pour les femmes, c'est une question qui a effectivement quelque chose qui relève de la culture, qui fait qu'à l'heure actuelle, on a encore peu de femmes dans certaines fonctions.
Dans ces cours de haute instance, peu fréquentées par les femmes, on retrouve la Cour constitutionnelle. C'est une cour particulière parce qu'elle vérifie les lois créées par le Parlement. À cause de ça, sa composition est un peu spéciale. Sur les 12 membres qui y siègent, 6 sont des parlementaires qui viennent donc du monde politique, et les 6 autres viennent des hautes cours du pays, comme la Cour de cassation. Sa création est assez récente puisqu'elle date de 1980, où elle porte alors le nom de Cour d'arbitrage.
Nous avons rencontré Jeannine Delruel, une des premières femmes juges à la Cour constitutionnelle. Elle y a siégé pendant 9 ans. Pour la petite histoire, Jeannine Gobert, de son nom de jeune fille, a obtenu un doctorat en droit et un diplôme en sciences politiques à l'ULB. C'est à l'université qu'elle rencontre son futur mari, Jacques Delruel. Jeannine a très envie d'avoir des enfants, mais son souhait ne se concrétise pas. Alors déprimée, elle suit son époux dans de nombreux voyages, puis elle devient présidente de l'Œuvre nationale de l'enfance, un poste qui lui plaît énormément. À cette même période, Jeannine Delruel rencontre la reine Fabiola et le roi Baudouin, qui aura un rôle clé dans son parcours. Il la convainc de siéger au Sénat, ce qu'elle fait pendant 10 ans, avant d'entrer à la Chambre.
Et après ça, on me fait venir, on me dit, voilà, il y a une place qui va se libérer à la cour d'arbitrage, elle s'appelait, puisqu'elle a changé de nom en cours de route, d'arbitrage, et tu peux y aller. Alors je dis, écoutez, c'est pas possible, parce que je viens d'accepter ici une présidence de commission, il y a 3 mois que je suis là, faut pas non plus être ridicule, donc je fais obstacle. Et le chef de cabinet du roi, il me téléphone, il me dit, il paraît que vous ne voulez pas aller. Et quand j'étais au Sénat, j'avais été membre de la commission de la justice qui a planché et qui a donc fait voter cette loi. On a créé la cour d'arbitrage. Je savais de quoi il s'agit puisque j'avais préparé la loi qui est passée alors au Parlement. Plusieurs personnes autour de moi me disent « mais si, il faut y aller, etc. » Et le roi me fait faire un message, il me dit, de nouveau à son chef de cabinet, « dites-lui que je la connais bien, que ce qui l'intéresse le plus, c'est quand même l'enfance, etc. » Et aussi, elle a un côté quand même un peu féministe, elle ne va pas, elle ne peut pas laisser ses 12 hommes seuls quand on lui propose d'entrer.
Pour Manuela Cadelli, notre juge de Namur, il est clair que la répartition dans les différents domaines du droit est genrée.
Au sein du tribunal de première instance, au tribunal de la famille, il y a beaucoup de femmes, mais il y a peu d'hommes. Là, franchement, je ne crois pas que ce soit un phénomène de génération. Peut-être que ça va changer dans les prochaines années, je ne vois pas comment, mais il y a un problème de mentalité. C'est qu'on s'est très bien accommodé des femmes dans la magistrature, qui sont là parce qu'elles reprennent les enfants à 4 heures à la piscine. On ne s'est toujours pas accommodé dans la magistrature des femmes qui ont du caractère et qui disent comment on va faire. C'est mal vécu, il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de corps. Ça reste clivant même auprès des femmes magistrates. Des femmes, bon, moi j'ai du caractère et je clive. Je clive parce que je dis ce que je pense, parce que ça reste quand même un milieu extrêmement conservateur. Hein. Mais enfin, ça s'est décrit comme étant un phénomène général. Donc moi, je m'exprime. Je m'exprime. Les premières années, j'étais vraiment considérée comme une gitane, comme une hystérique, quoi. Mais parce que c'est un peu étrange, une femme juge qui ose dire des mots comme ça. Et maintenant, ça change. Mais donc, ça confirme ce qu'on dit ailleurs. Alors, la magistrature devrait faire exception, puisque par définition, nous défendons la non-discrimination, ceci, cela. Mais donc, ça confirme que pour qu'on vous prenne au sérieux comme un homme, il faut travailler plus. Faire monter la mayonnaise, quoi, avec des trucs sérieux. Et je vois bien que quand j'arrivais au début dans des réunions avec d'autres associations, comme j'ai des talons, je me maquille, je vois bien qu'au départ, c'est plus compliqué. Ça reste plus compliqué pour une femme, mais c'est vrai partout. C'est vrai partout. Ça devrait être différent dans la magistrature.
Les questions de genre sont partout autour de nous. Ce n'est donc pas une surprise que le monde juridique subisse aussi les conséquences du sexisme. Un réel mal de tête pour les femmes de droit.
J'entends quand même très très souvent des témoignages au barreau, à l'université, qui pointent que le problème de telle ou telle praticienne du droit, chercheuse, avocate, c'est pas du tout ses compétences professionnelles, c'est sa personnalité. Notamment parfois des femmes qui seraient trop ambitieuses.
Quand j'étais stagiaire, il est arrivé une fois que j'aille en réunion et où le client de mon maître de stage m'a dit « Ah, vous êtes une belle et fraîche jeune fille ».
Justement, j'ai discuté avec une professeure qui a été avocate à un moment donné et on a mis à la porte au moment où elle a pris son congé maternité parce qu'elle n'allait pas savoir suivre.
Je me souviens qu'à la première réunion d'association, je me suis entendue dire par un associé que j'avais quand même une bouche à pipe.
Et là, je me suis vraiment sentie comme un bout de viande, en fait, et j'ai dit, bah non, ça va pas du tout, enfin, pour qui il se prend celui-là? Mais j'étais stagiaire, et c'était une de mes premières réunions clients, donc j'avais pas grand-chose à dire. Il y a ce jeu de pouvoir qui peut se faire sentir quand on est stagiaire, mais à partir d'un certain temps, on a compris ce qui se passait, et on se laisse plus intimider. Après, il faut tourner ça à la rigolade et rendre, en fait, ridicule celui qui fait la remarque.
C'est marrant parce qu'on a aussi réfléchi à ça. Je ne voudrais pas me positionner uniquement en victime, comme si j'avais tout subi, comme si j'avais participé à rien.
Et on a réfléchi à ça dans le groupe en disant c'est marrant parce que les femmes, parfois, ont beaucoup de mal dans la société, dans la représentation qu'on se fait aujourd'hui de la réussite, à accepter un statut de victime, voire un statut ponctuel de victime. C'est pas parce qu'on admet qu'on a connu des difficultés qu'on est victime toute sa vie.
Moi, j'aimerais me dire qu'on est sur la voie du changement et que du coup, quand je commencerai à travailler, j'aurai pas à prouver que je mérite deux fois plus d'être là parce que je suis une femme. You don't know me. I'm not just one of
your many toys. You don't know me. Patricia Mellotte, docteure en psychologie sociale, nous en dit un peu plus sur le sexisme, un processus culturel et sociétal.
De manière simple, on pourrait dire que le sexisme, c'est des discriminations qui sont liées au sexe. D'un point de vue plus sociologique dans notre société, on sait que les personnes qui sont discriminées par rapport à leur sexe, ce sont les femmes. Et donc, c'est l'ensemble des discriminations envers les femmes liées au genre aussi. Et donc, ça s'inscrit dans un processus qui est collectif et qui est en lien avec la société patriarcale dans laquelle on vit. C'est un peu du paternalisme où, tout un moment dans la société, en fait, c'est un peu comme si les femmes et les enfants avaient le même statut. Le fait qu'il y ait une différence d'âge renforce, en fait, comme si on additionnait les discriminations, ou en tout cas le pouvoir. Si on mélange le pouvoir lié au statut, le pouvoir lié au sexe, on n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons. Encore maintenant, on apprend beaucoup plus aux petites filles à être conciliantes, et aux petits garçons à se défendre. Donc par rapport à une même attitude, on ne va pas avoir la même réaction de manière globale et générale. Et donc ça amène aussi les femmes adultes à être moins directement affirmatives dans ce qu'elles veulent. Parce qu'en plus aussi, on perçoit moins bien une femme qui est sûre de soi qu'un homme qui est sûr de soi. Parce que l'homme qui est sûr de soi, on va le valoriser. La femme qui est sûre d'elle, on va dire qu'elle est arrogante, etc. Donc, ou alors un homme qui se fâche, on va trouver normal qu'il se fâche. Une femme qui se fâche, on va dire qu'elle est hystérique. Et donc on n'aura pas la même image.
Écoutez la célèbre Aretha Franklin avec son morceau « Respect ». Toujours dans notre émission sur le parcours des femmes du monde juridique, nous avons pu entendre que le sexisme n'épargne ni les juges, ni les avocates. Ceci dit, les expériences sont différentes, comme en témoigne l'avocate en médiation, Anne-Marie Boudard.
Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il faut savoir que les hommes au barreau, je trouve qu'ils sont très très bien éduqués. Et donc en général, quand ils disent quelque chose, c'est toujours quelque chose de très gentil. Sur l'habillement ou quoi, ça arrivait, c'est très joli, ou quelle belle couleur. Ils sont rarement désagréables. Et c'est pas, moi je me suis jamais sentie harcelée, ni avec des remarques de ce type-là, et par aucun client. Jamais, jamais, jamais. Mais je me rappelle parfois des confrères qui m'ont dit « Ah ben je vois que la compétence et la féminité vont de pair » ou des trucs comme ça, mais c'est gentil. Moi je trouve que c'est pas, mais là il faut savoir aussi quelles sont nos limites personnelles, mais des remarques sexistes ou quoi en disant « comment on t'habille au talon », non.
L'une des premières femmes à devenir juge à la Cour constitutionnelle, Jeannine Delruel, était écoutée et respectée par ses confrères.
J'ai pas dû m'imposer. Parce qu'enfin, ce sont des hommes qui ont derrière eux une belle carrière, des hommes intelligents, autour de la table, on débattait pour savoir quelle était la décision qu'on allait prendre. Là, j'étais seule avec uniquement des hommes, et je vous dis, dès que je pouvais lever la main en disant, et le président disait, voilà, on donne la parole à Jeannine, hop, silence le plus complet, et puis un autre qui a enchaîné en disant, oui, peut-être bien que ceci, et le débat prenait un tournant, parfois tout à fait différent.
Les relations avec les avocats plus âgés sont parfois particulières, comme nous l'explique Manon Willems, stagiaire avocate au barreau de Namur.
Bien sûr, en tant qu'avocate, je veux bien faire, surtout quand on débute, on veut toujours prouver qu'on est là et qu'on mérite d'être là et qu'on a les capacités d'être là, et surtout par rapport plutôt à des confrères plus âgés, je dirais, contre qui on se retrouve dans des dossiers et auxquels on veut pouvoir répondre au mieux. Mais je n'ai jamais senti que je devais me surpasser en tant que femme. Vis-à-vis d'autres confrères masculins, je n'ai jamais senti cette différence, et certainement pas vis-à-vis de confrères de mon âge.
Le combat pour les droits des femmes ne date pas d'hier pourtant, comme nous le rappelle Patricia Mellotte, docteur en psychologie sociale.
Il y a d'abord eu des revendications par rapport à des droits, droit de vote pour les femmes. Le fait que dans la Constitution, on indique que les hommes et les femmes sont égaux, ne date que de 2007, donc c'est quand même assez récent. Donc il y a d'abord eu tout un combat sur l'égalité par rapport aux droits. C'est un peu comme si les discriminations à ce moment-là étaient considérées comme normales, institutionnelles, etc. Ça évolue petit à petit. Oui, il y a une idée de vague aussi dans ce qui se passe, parce que les revendications ont changé, et les revendications que font les femmes aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Il y a des combats qui semblent gagner, même si, par exemple, le travail égal, salaire égal, c'est quelque chose qui, normalement, devrait être là, mais en pratique ne l'est pas, pour toutes sortes de raisons. Donc il y a bien un effet de génération, parce que les combats changent.
Dans laquelle j'ai le plus l'air d'un homme de Harvard ?
J'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'as en rien l'air d'un homme de Harvard.
Bienvenue à la faculté de droit de Harvard.
Je m'appelle Ruth Bader Ginsburg.
Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Ginsburg ? Vous occupez une place qui aurait pu être attribuée à un homme.
Du côté des hommes, le discours n'est pas dupe. Antoine Delforge, papa de 4 enfants et avocat, nous expose sa façon de voir les choses.
Je pense que j'ai la chance d'être un homme pour effectuer cette tâche d'avocat, parce que je dois bien reconnaître que mener une vie de famille et une vie d'avocat n'est pas la même chose pour une maman que pour un papa. Je crois que les demoiselles, ou les madames plutôt, doivent combiner en plus de cela des charges d'enfants. Alors c'est clair qu'il y a une répartition des charges entre le papa et la maman, en principe c'est ça qu'il faudrait en tout cas, mais il y a peut-être aussi une nécessité de la maternité qui est physiologique et qui fait que quand on est enceinte, ça affecte quand même au niveau de l'aspect physique. Il faut aussi se reposer, et il faut surtout s'occuper de ce petit bout pendant quelques mois, et donc c'est vrai que ça implique simplement, du fait de la grossesse, un nombre de mois où on ne sait pas travailler complètement. Donc ça, je crois qu'effectivement, il y a quand même des difficultés, des différences. Ceci étant, c'est vrai que la fonction d'avocat est intéressante également pour une femme, parce qu'il y a cette possibilité de s'organiser et d'organiser son temps, et de pouvoir jongler entre la crèche, les grands-parents, les audiences, etc. Mais ce n'est pas évident. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a toujours une vision un petit peu traditionnelle du fait que l'épouse s'occupe un peu plus du foyer et le mari essaye de ramener un peu plus d'argent. Mais bon, ça c'est peut-être un cliché un petit peu ancien qui garde quand même certains échos dans la vie actuelle. Mais voilà, je crois que cette différence font qu'il y a aussi une différence entre un homme et une femme quand ils exercent la profession d'avocat.
Parfois, être une femme joue un rôle lors du recrutement, comme en témoigne Bruno Daillé.
Il n'y a vraiment aucun sexisme dans mon équipe. J'ai peut-être un peu moins de femmes que d'hommes, mais a priori, c'est indifférent pour moi d'engager une femme ou un homme selon les matières. Je dirais selon les matières. Ce n'est pas indifférent dans l'absolu. Je viens d'engager un collaborateur pénaliste. Et là, j'ai clairement discriminé en disant que je préférais vraiment travailler avec un homme. En droit familial, mon optique sera différente. J'ai engagé une jeune femme, et je vais sans doute en réengager une autre incessamment. Donc je dirais qu'il y a probablement des correspondances selon le type de matière. Aller en prison, travailler sur des dossiers qui sont très durs et je crois particulièrement pénibles pour des femmes qui sont en général plus... Il faut bien le dire, qui vivent les choses avec plus d'émotion, plus de passion, avec un ressenti probablement différent. Donc cela leur est plus pénible. Il y a des aspects de la personnalité qui sont différents. Les femmes pénalistes sont des femmes qui ont énormément de culot, énormément de sang-froid, qui sont des, si vous permettez l'expression, c'est une expression que j'aime pas, des espèces de débattants, des espèces de tanks, d'accord, qui se sont forgés une carapace d'insensibilité parce qu'elles travaillent dans des dossiers de pédophilie, des dossiers de trafic de drogue, des dossiers sanglants, qui sont souvent assez pénibles, d'autant qu'on est du mauvais côté de la barrière. En familial, c'est évidemment, on ne rencontre pas les mêmes problématiques. Donc, selon les matières, j'affectionnerais plutôt de travailler avec un homme ou une femme, mais je pense qu'ils ne travaillent pas de la même manière. Alors, notre métier à nous, avocats, il est très difficile à gérer pour une femme, parce que c'est un métier chronophage, donc forcément, c'est toujours le même problème de la compatibilité avec la vie familiale, avec des horaires qui n'ont pas de fin, avec le fait de travailler le week-end si on a du retard, avec le fait que les audiences sont souvent interminables. Donc, avec un ou plusieurs enfants, si c'est la femme qui assume essentiellement, comme c'est souvent le cas, pas seulement les tâches domestiques, mais la responsabilité de la gestion du foyer, c'est compliqué. Donc, je constate que c'est compliqué. Donc, souvent, elles ne font qu'un tour de piste. Et je crois qu'il y a un grand taux d'abandon après quelques années, parce qu'on se rend compte que ça devient difficilement conciliable. D'où le fait que les femmes, je ne fais pas de généralité, vont s'orienter plutôt vers des professions telles que substitut ou juge, qui sont évidemment pour lesquelles les horaires sont plus souples et donc il y a une plus grande malléabilité. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon,
where you gonna run to? La question de la maternité est centrale dans le choix de carrière des femmes de droit. Le barreau peut devenir un environnement hostile pour les jeunes mamans. Chloé Armel, membre et employée de l'ASBL Femmes & Law, l'a vécu. Elle a été avocate pendant 8 ans et demi au barreau de Bruxelles. Elle témoigne de ce qui lui est arrivé après son accouchement.
Je pense que j'ai jamais mis des mots sur une forme de harcèlement moral que j'ai surtout perçue au moment où je suis devenue maman. Parce que je pense que dans le cadre de la maternité et de l'exercice de la profession d'avocate et du statut d'indépendante en tant que femme enceinte et jeune maman, tout s'est soudainement compliqué sans que je reçoive le soutien qu'instinctivement j'espérais en fait. Sans que je fasse appel à quoi que ce soit comme norme ou comme directive. C'est-à-dire que moi je pense que la première claque que je me suis prise, c'est après la fatigue et les exigences qui étaient les mêmes pour moi durant ma grossesse, je crois que la première claque que j'ai connue, c'est le fait qu'on exige de moi que je rattrape le temps perdu, entre guillemets, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, pendant mon absence, donc pendant mon congé de maternité. Et donc je devais démontrer deux fois plus qu'avant mon départ.
Anne-Marie Boudard, avocate spécialisée en médiation, raconte quant à elle les défis qu'elle a relevés pour garder son cabinet une fois devenue maman.
Alors, il faut savoir que mon choix de métier, de faire de la négociation, est très difficilement conciliable avec le fait de pouvoir laisser mon cabinet à quelqu'un d'autre. Parce que quand on commence des négociations, c'est très difficile de se faire remplacer. Donc j'ai travaillé à un moment donné, parce que je faisais du droit commercial et du droit familial pendant les 10 premières années du barreau. Et donc ce qui était en droit commercial, je pouvais éventuellement le donner à quelqu'un, mais le droit familial, c'est très difficile. Donc c'est pour ça que maintenant, en fait, j'ai plus de collaborateurs, parce que j'ai choisi de faire que du droit de la famille et que des accords. Donc quand quand on a décidé d'avoir les enfants, je savais que ça allait demander
je dirais, un travail très très important parce que je ne pouvais pas laisser mon cabinet pendant 3 mois, sinon je n'avais plus rien. Et la difficulté, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup moins d'interventions. Financièrement, je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de rémunération. Et donc, en fait, les deux projets accouchés, j'ai repris après 10 jours.
Nous avons demandé à Alexia Nguyens, avocate en droit de l'entreprise, pourquoi elle a décidé d'ouvrir son propre cabinet.
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le cabinet dans lequel je travaillais, parce que je n'arrivais pas du tout à me projeter en alliant ma carrière et une vie familiale. Et c'est un des challenges que beaucoup d'avocates ont. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui quittent le barreau à mon âge. C'est un peu un fléau. Et une des mesures que j'ai prises pour justement permettre ça, c'est de me lancer à mon compte. Et là, en termes d'organisation du travail, bah, je fais comme je veux. Je peux travailler de mon bureau, de chez moi. Je peux travailler toute la journée et m'arrêter à une heure raisonnable. Je peux faire une pause l'après-midi et retravailler le soir. Enfin, voilà, j'ai personne qui m'impose quoi que ce soit, si ce n'est bah, les deadlines pour mes clients. Et au-delà de ça, bah, je suis totalement libre de m'organiser comme j'ai envie. Baby, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see? Vous venez d'entendre All of Me d'Ella Fitzgerald. Vous êtes toujours dans Commises d'office par leur genre, une émission sur le parcours professionnel des femmes juges et avocates. Sur le thème de conseiller maternité et carrière, Diane Roman, professeure de droit, nous explique pourquoi il est toujours ancré dans la société que les femmes doivent assurer les tâches ménagères.
Ben c'est tout à fait connu. Bon, c'est ce qu'on appelle sous le nom de la théorie des deux sphères, c'est-à-dire que la sphère publique est l'apanage masculin, la sphère domestique est l'endroit où les femmes ont vocation à exercer. Et dès lors qu'une activité dans la sphère publique est exercée par les femmes, elle perd de sa légitimité et de son attractivité. C'est choquant, mais c'est pas neuf. Regardez, on parlait des instituteurs et des institutrices en école primaire. Lorsque l'instituteur était un homme au début du XXe siècle, c'était une figure sociale très respectée dans la communauté locale. Il y avait le maire, le curé et l'instituteur. À partir du moment où il y a eu une féminisation de la profession, et ça a entraîné une dévalorisation sociale. Donc oui, c'est... Enfin, je n'approuve quand je vous dis ça, ce n'est pas pour l'approuver, c'est la description d'un phénomène social. Donc les professions judiciaires maintenant sont dévalorisées et les hommes du coup ne veulent plus intégrer ces professions.
La maternité, c'est un moment clé pour les femmes qui veulent des enfants. Pour les avocates indépendantes, c'est aussi un défi.
L'arrivée d'un enfant, ça ne concerne pas que les femmes. Cependant, l'expérience a l'air assez différente pour les avocats. Bruno Daillé nous raconte qu'à l'époque, il était impensable de laisser sa profession de côté pour s'occuper davantage de ses enfants.
J'ai 3 enfants, je suis grand-père, donc mes enfants sont très grands. Mais à titre personnel, mon ménage tient bon. Mais je veux dire, c'est parce que j'ai pu compter sur une femme qui était enseignante, qui avait donc des horaires compatibles avec les horaires scolaires, qui était en vacances chaque fois que les enfants l'étaient, qui n'a pas pu beaucoup compter sur moi quand les enfants étaient petits. Donc Moi, je suis au rythme de 55 heures semaine depuis 36 ans. Au grand scandale de mon épouse, qui a dû beaucoup assumer, enfin, qui l'a fait avec, comment dirais-je, avec abnégation, d'accord. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, je crois, avec la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, je ne pourrais plus me payer le luxe de déposer le couffin dans le hall après avoir été chercher ma femme à la maternité en disant que je vais retourner à mes consultes. Donc c'est en fait assez scandaleux de mon propre point de vue, mais voilà, le mal est fait. Mais en fait, à l'époque, quand vous travaillez seul, à l'époque je travaillais seul quand j'ai débuté, c'est extrêmement difficile de s'absenter de son travail, fût-ce une demi-journée. Donc c'est, imaginer d'exercer ce métier à temps partiel est une hérésie.
Il faut savoir qu'environ 91% des avocats exercent la profession à temps plein. Antoine Delforge, lui, témoigne de ce qu'a changé la paternité dans son métier.
J'ai 4 enfants, donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce que ça changeait à plusieurs reprises. C'est surtout le passage de pas d'enfant à un enfant qui change tout. C'est surtout la manière de voir les choses, de relativiser les choses. Donc quand on est avocat et qu'on a que ça, on travaille, on s'occupe bien sûr de son épouse, de sa petite femme, mais on est surtout dans les problèmes de nos clients. Et puis, la paternité venant, on se met vraiment à relativiser les choses et à se dire, oh ben voilà, est-ce que ce problème-là est important? Mais voilà, il y a peut-être d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie. Et je crois que la paternité permet à l'avocat d'assumer cette fonction d'indépendance qu'il doit avoir par rapport à son client, d'être détaché de son client. Je pense que je le suis d'autant plus que j'ai des enfants et que je prévois toutes les semaines de travailler à domicile, ce qui me permet notamment d'aller conduire les enfants dans leurs écoles respectives. Et ça me permet aussi de me donner aussi bonne conscience et de me dire que mon épouse ne fait pas tout. Et c'est très très gai pour moi d'aller chercher les enfants et les conduire aussi à l'école. Donc il y a effectivement un changement au niveau des horaires, et alors eh bien, je suis là aussi et je peux organiser de manière ponctuelle mon horaire de travail pour pouvoir m'occuper des enfants.
L'avocat spécialisé en finance, Laurent Arnaut, pointe du doigt l'influence de la paternité sur les prises de risques dans une profession d'indépendant.
Je crois que ça a changé évidemment la façon de travailler à deux niveaux. D'abord au niveau pratique, je dirais au jour le jour, à partir du moment où on est dans une relation. Ça dépend des relations, mais à partir du moment où on est dans une relation qui tente vers une forme de partage des tâches, ça signifie évidemment que voilà, ça a son impact également en termes d'horaire. Il faut partir plus tôt, il faut s'organiser, parfois partir et revenir, enfin bref. Donc oui, ça a un impact de ce point de vue-là. Il y a une deuxième raison pour laquelle cela a un impact, qui est la condition d'indépendant. C'est que, évidemment, lorsque l'on n'a pas d'enfant, on peut se permettre un certain nombre de risques, je dirais, qui s'imposent en quelque sorte à un indépendant débutant. Par contre, lorsqu'on a des enfants, c'est vrai que là, ça change un peu les perspectives. Puisque là, par exemple, peut-on se permettre, je dirais, d'être sans revenu lorsque l'on tombe malade? Ça a l'air tout bête, mais c'est une question véritable. On peut également être confronté, dans ce cas-là, à, je dirais, des choix qui vont être tout à fait différents des choix de départ, tout simplement parce que on a une responsabilité qui ne s'étend pas à sa petite personne, mais à une famille. Donc voilà, dans ce sens-là, évidemment, la survenance d'enfants, pour un bien, hein, je dirais, probablement, a un impact.
La solution pour beaucoup d'avocates, c'est de devenir fonctionnaire, et donc de se diriger vers la magistrature. Un emploi du temps plus malléable et un salaire remplacent alors une profession chronophage et un statut d'indépendant.
Rappelons les propos de la criminologue Adeline Cornet. La répartition des femmes juges n'est pas homogène dans tous les tribunaux et dans toutes les cours du pays. De manière générale, les magistrates se trouvent plus souvent dans les tribunaux de première instance, comme par exemple le tribunal de la famille ou le tribunal de la jeunesse.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh, yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Days of loving,
just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly.
Vous venez d'entendre I Got a Woman du fameux Ray Charles. Si vous venez de nous rejoindre, cette émission s'intéresse aux défis des femmes avocates et juges au quotidien. On continue sur le thème de la maternité avec le témoignage de Manuela Cadelli, une magistrate qui n'aime pas coller aux stéréotypes de genre puisqu'elle est juge au pénal à Namur depuis 20 ans.
Maman a 22 ans, elle décide de continuer ses études pour rester avec sa fille. Elle choisit un truc de garçon, du droit fiscal, parce que Manuela Cadelli ne veut pas être stigmatisée dans sa condition de maman. Puis la jeune femme devient assistante à l'université de Namur pour quelques années, avant de rejoindre le barreau namurois pendant 3 ans. En 1995, l'avocate se tourne vers la magistrature. Elle sera nommée juge au bout de 4 ans de stage. Elle nous livre le témoignage de son quotidien.
Comme magistrat, vous êtes, quand vous n'êtes pas en audience, vous pouvez très bien passer. Donc, ce n'est même pas du télétravail. On est dans son bureau chez soi. On peut être au palais s'il y a des bureaux. Ici, il n'y a pas de bureaux qui sont disponibles. Quand vous êtes chez vous, forcément qu'à un moment, vous faites une pause, vous allez lancer une machine, vous allez faire votre vaisselle, vous allez sortir, faire deux courses et déjà mettre à chauffer les oignons pour la sauce, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a une fluidité dans l'organisation qui est très confortable, avec le danger, c'est que dans votre maison, personne n'a l'impression que vous bossez. Donc, il y a une facilité avec un inconvénient qui est que quand les enfants sont malades, c'est pour le magistrat, c'est pas pour celui qui travaille à l'extérieur. Mais, et voilà, et tant mieux. Donc, vous êtes un peu multicasquette et les casquettes s'inversent, s'échangent. Parfois, contre votre volonté, parfois vous auriez bien envie de dire, mais moi j'ai un gros dossier et donc c'est non, quoi. Et ce soir, je ne fais pas à souper. Il se fait que tous les soirs, je fais à manger depuis. Donc ma fille aînée a 32 ans, je fais à manger depuis 32 ans, tous les soirs, c'est moi.
Et comment on concilie les casquettes ?
Dans la confusion la plus totale. Oui, mais je crois que. Alors, mes filles étaient ici à l'école et donc le mercredi, j'ai audience le mercredi en Ecofin, c'est souvent des dossiers lourds. Parfois, je termine à 1h30, 2h. Ben, elles aboulaient, elles attendaient dans la chambre du conseil, elles faisaient leurs devoirs, et puis on repartait, et puis voilà. Mais je crains parce que j'ai l'impression que la situation des femmes ne va pas s'améliorer avec la crise, et avec les problèmes climatiques, et les problèmes qui s'annoncent, qui se profilent, qui sont parfois déjà là. C'est toujours les femmes qui prennent d'abord. Hein. Cinnamon, where you gonna run to?
Cinnamon, where you gonna run to? Dans de nombreux ménages, encore aujourd'hui, c'est la femme qui prend en charge la majorité de l'éducation d'un enfant et des tâches ménagères. En 2017, une étude montre que les femmes effectuent 2/3 du travail domestique et familial. En chiffres, les femmes consacrent plus de 21 heures par semaine aux tâches ménagères, à l'éducation et aux soins des enfants, contre un peu plus de 14 heures pour les hommes.
Certaines femmes s'accommodent de ce syndrome genré qui place les femmes dans le rôle de mère et réussissent très bien à faire carrière au barreau ou dans la magistrature, mais ne percent pas encore le plafond de verre. La solution, on l'espère, s'élabore dans les auditoires de droit, là où tout commence et là où les filles sont majoritaires.
Des étudiantes en droit de l'ULB nous parlent de leur spécialisation. Elsa-Louise Marc nous parle de son choix de faire du droit familial et Morgane Mercier nous explique quelles sont les spécialisations de son groupe d'amis.
Je pense que maintenant, le droit familial, il y a une majorité de femmes, alors qu'avant, il y a une majorité d'hommes. Je ne pense pas qu'en droit économique, ça arrivera forcément, mais je pense qu'on arrivera à une égalité assez rapidement. Je pense que c'est déjà en train d'arriver. Après, il y a une différence entre l'égalité au sein du nombre de places dans le cabinet et les positions que chacun occupe. Je pense qu'avant de voir qu'une femme soit à la tête d'un super gros cabinet ou soit associé, partenaire ou quoi. Je pense que ça, on va encore devoir beaucoup travailler parce que ça va pas arriver tout de suite, quoi. Je suis un peu l'exception dans mon groupe d'amis. Elles sont soit en éco, soit en droit international ou public. Donc j'ai des amis en éco, j'ai une amie en social et puis sinon beaucoup en international. Là, ça se divise vraiment. Il y a ceux qui veulent travailler dans les ONG, il y a celles qui veulent faire du pénal international. Puis après, il y a toutes celles qui veulent faire du public.
Je vais prendre un panel de 10 amis, disons. Alors, je sais qu'il y en a une qui fait du droit familial, il y en a une qui fait du droit social, il y en a une qui fait de la criminologie, du droit international, mais qui irait plus vers international, mais pénal, genre le droit humanitaire. Une autre qui ferait plus du droit public. J'ai une amie qui, elle, va faire droit et liberté, les droits humains aussi. Une autre qui va faire du droit social, donc il y en a deux, droit social. Plusieurs aussi qui vont faire quand même du droit des affaires, pourquoi pas. Mais néanmoins, dans mes amis, voilà, il y a un panel assez large. Mais je remarque quand même que dans certains cours options que j'ai pris, typiquement un cours comme approche juridique des discriminations, il y a beaucoup de filles, il y a quasiment que des filles ou des personnes issues des minorités, malheureusement, sexuelles ou... Je suis en train de faire des guillemets, mais ethniques. Enfin voilà, il y a rarement de hommes blancs qui ne subissent pas trop les discriminations et les préjugés. Dans certains cours, ça se ressent en tout cas, ce que j'ai vu, quoi.
Diane Roman, professeure à l'université de Tours, en France, donne aussi des cours à l'université libre de Bruxelles. Nous l'avons interrogée sur la question du genre dans le choix d'une formation universitaire.
Ce qu'on constate, c'est que les formations sont genrées. C'est-à-dire que si vous allez dans les facultés de sciences, vous aurez exclusivement des étudiants garçons. Si vous allez en lettres, vous aurez exclusivement des filles. Donc le droit, la médecine, pendant longtemps, étaient des filières qui étaient masculines. Juste pour information, hein, en France, les femmes ne peuvent devenir magistrates que depuis 1945. Donc auparavant, les facultés de droit étaient réservées aux garçons où il y avait très très peu de filles. Ça se féminise désormais. Le corollaire de cette féminisation, elle est connue en termes de sociologie. Ça entraîne une dévalorisation des diplômes et des formations. C'est-à-dire que typiquement, une formation où il n'y a que des filles est considérée comme une formation moins prestigieuse.
Patricia Mellotte nous explique le parcours général des femmes à l'université et ce que ça veut dire d'être une femme dans notre société aujourd'hui. On constate que les choses évoluent, certes, gentiment, mais sûrement.
À l'ULB, la dernière année académique, il y a quand même 60% des étudiants qui sont diplômés après le master qui sont des femmes. 60%. Le pourcentage de femmes augmente de plus en plus. Alors, les inégalités sont différentes en manière des secteurs. Il y en a par exemple 67% en sciences humaines, alors qu'il y a 41 femmes en sciences exactes, enfin tout confondu, qu'elles sont majoritaires en sciences de la santé aussi. Donc elles sont plus diplômées en moyenne, mais elles n'occupent pas les postes les plus élevés. Donc être une femme aujourd'hui, c'est aussi avoir plus de difficultés à être PDG d'une entreprise, à être présente dans les médias, à être présentée comme une spécialiste, c'est encore vivre des tas de discriminations. Mais c'est quand on regarde les chiffres des salaires et tout ça qu'on voit qu'il y en a encore de la discrimination. Mais donc, oui, être une femme aujourd'hui, c'est encore vivre dans un monde qui est inégalitaire, où la carrière, si on regarde la carrière académique, elle est encore au plus haut échelon, il y a 23% de femmes. Et encore, ça a bien augmenté à l'ULB, parce que, comparativement aux autres UNIF, parce qu'il y a des politiques de genre qui sont là et qui montrent leur efficacité, mais il y a quand même toujours cette différence.
Mais comme Laurent Arnaud le soulève, la situation a évolué depuis l'époque de Marie Popelin.
Je ne crois pas que la composition sociologique des auditoires ait changé véritablement depuis. Je crois qu'on est plus ou moins avec une légère surreprésentation des femmes. Je crois que c'était déjà le cas à l'époque, ou en tout cas on n'était pas très loin, mais... Toujours est-il que c'est une profession, enfin, je dis pas dans des études, en tout cas, qui ont assez tôt, tout de même, séduit un certain nombre de femmes souhaitant, je dirais, acquérir une formation universitaire. Donc, de ce point de vue-là, je crois que déjà à l'époque, c'était le cas, et cela se reflète aujourd'hui dans la distribution, je crois, de la profession juridique, en tout cas en Belgique, puisque, par exemple, on voit énormément de magistrats femmes aujourd'hui. Je dirais, à vue de nez, considérer qu'elles sont au moins je dirais à la moitié, par exemple, des postes de magistrat. Alors, au niveau de la profession d'avocat, là, ça vaudrait la peine, effectivement, de poser la question de façon précise, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'un certain nombre de femmes choisissent aussi la profession de magistrat, justement, pour pouvoir mieux, combiner la vie privée et la vie professionnelle. Ça entre parfois en conflit avec des obligations qui sont en général plus régulières et plus impératives, qui sont liées à la vie de famille. Voilà, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'on a fait du chemin depuis l'époque, au XIXe siècle, où la Cour de cassation considérait que les femmes étaient par nature inaptes à la profession d'avocat.
Nous avons rencontré Diane Bernard, professeure de droit à l'Université de Saint-Louis et membre de l'ASBL Femmes & Law, une association constituée de juristes féministes qui ont la volonté de faire évoluer la situation des femmes.
Le droit, c'est à la fois notre outil, mais c'est aussi le lieu problématique qu'on surveille, entre guillemets, et qu'on aimerait bien voir changer. Et donc, on essaye de mener une veille des activités du législateur, les nouveaux projets de loi, les propositions de loi, voir un peu ce qui, parfois, souvent, paraît tout à fait neutre, puisque le droit belge, aujourd'hui, la Constitution prévoit que les femmes et les hommes sont égaux et que c'est l'un des principes fondamentaux de notre système juridique. Le droit ne peut plus être discriminatoire, ce serait contraire à la Constitution. Et pourtant, malgré qu'il paraisse neutre et qu'il soit censé l'être, il ne l'est pas. Et donc on veut à la fois l'utiliser comme outil parce que c'est un outil formidable dans des dossiers pour défendre des femmes en particulier dans des cas très divers mais où elles rencontrent des difficultés qui sont liées au fait même qu'elles sont des femmes. Et à la fois, on veut changer ce qui est problématique aujourd'hui, ce qui est inégal et qui est d'autant plus glissant à notre, ou peut-être dangereux selon nous, que les gens ont tendance à penser, beaucoup, parfois nous aussi, qu'il n'y a plus de problème puisque le droit est officiellement neutre et que ça va quand même mieux qu'avant. C'est ce qu'on entend souvent.
Qu'en est-il des étudiants d'aujourd'hui ? Diane Roman, professeure de droit, nous confie son ressenti sur ses élèves.
Les questions d'égalité entre les femmes et les hommes sont prises au sérieux, même si elles ne sont pas toujours comprises et qu'il y a toujours un certain nombre de préjugés ou de stéréotypes, sont des questions qui sont prises au sérieux. Désormais, ces questions sont prises au sérieux aussi bien par les filles que par les garçons. Et je m'explique. Si vous donnez un cours sur droit et genre, égalité femmes-hommes, vous pouvez être sûr que vous n'avez quasiment que des étudiantes. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'étudiants garçons qui vont s'inscrire à un cours optionnel consacré aux questions d'égalité femmes-hommes, comme si ça ne les concernait pas. Et donc on voit que désormais, il y a une évolution des mentalités chez les jeunes hommes de 20 ans, actuellement étudiants, que ces questions, ils commence à comprendre que ça les concerne eux et que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi donner plus de droits aux hommes et notamment de droits dans la sphère privée, le fait que généralement ils définissent la paternité de façon très différente de ce que pouvait faire leur père à eux, moins d'investissement au travail et un partage des tâches plus équitable sont des enjeux qui les motivent. Ça, c'est une évolution qui est en cours. Elle n'est pas aboutie encore, je vous dis. Dans des cours sur ces questions, il y a encore une très, très grosse majorité de filles. Mais c'est une évolution qui je pense, est vraiment très importante parce que rien ne se fera sans une coopération et une confiance mutuelle à la fois des hommes et des femmes. Donc voilà, le féminisme, c'est évidemment quelque chose qui concerne en premier lieu les femmes, mais c'est un combat dans lequel les hommes ont toute leur place.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées adorent leur métier. Être avocat, pour eux, est synonyme de rencontre et de nouveauté au quotidien. Mais pour les femmes, il est parfois difficile de faire reconnaître leurs besoins et difficultés dans l'institution judiciaire. C'est que le squelette du système judiciaire est foncièrement masculin et il n'est pas fait pour accueillir la grossesse. La situation des femmes dans la justice est compliquée, oui, mais pas désespérée. Existe-t-il un remède à proposer à tous ces maux ?
Pour toutes les professionnelles qui recherchent du soutien ou une communauté d'empowerment, il existe plusieurs réseaux de femmes, des cercles privés qui permettent à ces dernières d'élargir leur carnet d'adresses, ainsi que de trouver du soutien dans le développement de leur carrière. Dans une liste non exhaustive, on peut en citer quatre. Il y a par exemple JUMP, une organisation qui œuvre pour plus d'égalité entre hommes et femmes au travail, ou le réseau Diane, qui aide les indépendantes. Et n'oublions pas les associations telles que Femmes & Law, qui défendent les droits des femmes, ou l'ASBL Garance, qui offre des formations participatives, comme par exemple des cours de défense verbale.
Cette émission se termine. Merci à tous et à toutes de nous avoir accompagnés. Nous remercions aussi nos intervenants, qui ont donné de leur temps pour que ce reportage voie le jour. Notre émission fait partie du projet Penser la justice des étudiants en master de journalisme à l'ULB. Retrouvez-la en ligne sur notre site penserlajustice.be. panserlajustice.be ainsi que beaucoup d'autres reportages. All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the